Imaginez un instant que ce profil super soigné sur les réseaux sociaux, cette vitrine numérique de l'ego, et bien que tout ça soit en fait complètement obsolète.
Ouais, c'est l'idée.
Aujourd'hui, l'ultime réussite sociale, c'est pas de se démarquer, c'est carrément de disparaître au sein d'une tribu. Et c'est exactement la mission de notre deep dive du jour sur la fantomologie.
C'est un terme un peu obscur au début, mais...
Très obscur, ouais. Mais en décortiquant ses sources, on réalise un truc fou. L'hyper-individualisme est vraiment en plein effondrement. L'art de la séduction a muté pour devenir une ingénierie ultra sophistiquée de création de liens.
C'est un changement de moteur fondamental, en fait. La société a fonctionné pendant des décennies sur la glorification de l'individu isolé, mais on voit bien que ce modèle arrive en bout de course.
Bah, c'est vrai que la culture du selfie et l'exposition permanente, ça finit par ressembler à un moteur qui tourne dans le vide. Ça surchauffe et ça consomme une énergie folle pour une circularité vraiment stérile.
Exactement. Il fallait d'urgence une nouvelle source de carburant. Et ce nouveau carburant, bah, c'est l'émotion partagée. C'est la théorie de la socialité du sociologue Michel Maffesoli.
Ah oui, la fin du fameux contrat social.
C'est ça. On abandonne l'ancien contrat social qui était un truc froid, rationnel et fondé sur du très long terme. À la place, les individus se regroupent par affinité, juste pour vibrer ensemble, purement au présent.
Ouais, je suis fascinée par la théorie, mais en pratique, on est quand même tous plus isolés que jamais derrière nos écrans. Du coup, comment on construit une vraie tribu alors que tout le monde fixe son smartphone ? Sur le papier, le contrat social rationnel semblait quand même un peu plus soluble.
Eh bien, c'est précisément l'objet de cette fameuse fantomologie. Elle étudie cette architecture invisible, en fait, genre les traces numériques qui nous lient au-delà du monde physique.
D'accord.
Paradoxalement, c'est dans ce monde dématérialisé que se créent des connexions hyper intenses, parfois à travers des comportements qui semblent totalement absurdes, comme le shitposting ou le partage frénétique de mèmes.
Attendez, là, il va falloir m'expliquer le mécanisme. Comment une blague douteuse ou un mème absurde peut forger une tribu ? Ça reste du contenu jetable, non ?
Alors, pas du tout pour ceux qui le partagent. Un mème très obscur, ça agit exactement comme un mot de passe.
Ah, comme un code secret entre initiés.
Voilà. Quand on rit à une référence que seuls quelques initiés comprennent, on prouve instantanément son appartenance à une sous-culture précise. C'est une forme de ce que les documentaristes nomment l'esthésis.
L'esthésis, le fait d'éprouver une émotion ensemble, c'est ça ?
Exactement. C'est la même mécanique, mais à une échelle colossale, dans des événements comme le festival Burning Man. L'effort collectif brutal crée une expérience sensorielle partagée qui soude totalement les participants.
Donc l'émotion devient presque une matière tangible. Nos sources soulignent cette idée que l'intensité sociale, c'est une véritable force physique. Et d'ailleurs...
Ouais, on y parle d'accélération brutale d'une voiture de sport, par exemple.
Oui, mais oublions cette analogie de la voiture de sport un instant. Je trouve que cette dynamique ressemble bien plus à la gravité, en fait.
Ah, intéressant.
C'est pas une question de pousser physiquement les autres. C'est le fait de posséder une masse émotionnelle telle que les gens sont naturellement attirés dans notre orbite.
Mais c'est une excellente métaphore, ça. Et cette gravité, elle redéfinit complètement la notion d'autorité. On quitte le pouvoir coercitif pour entrer dans une douce révolution.
Une douce révolution ? C'est-à-dire que le pouvoir n'est plus d'écraser ?
C'est ça. Le pouvoir, c'est d'attirer. Le texte cite un exemple historique vraiment frappant avec la peintre impressionniste Berthe Morisot. Face à des figures de domination classiques et agressives, symbolisées par un archétype prédateur comme Don Giovanni.
Oui, elle s'imposait sans rien forcer.
Voilà. Elle imposait l'autorité par sa simple présence, sa retenue et son magnétisme.
Une résistance par la force d'attraction, c'est super habile. Et ça m'amène à l'un des 7 archétypes mentionnés pour décrire ces mécaniques tribales, la vestale du vide.
Ah oui, la vestale du vide, c'est un concept majeur ici.
Son mode opératoire, c'est l'opacité absolue. Mais là encore, j'ai du mal à voir comment le fait de cultiver le secret et de s'isoler peut générer de l'attraction.
Pour le comprendre, il faut vraiment s'intéresser à ce que les auteurs appellent la thermodynamique tribale.
La thermodynamique ? Mais on parle d'être humain, là, pas de physique. Comment on applique des lois sur la chaleur et l'énergie à des dynamiques de groupe ?
Bah, pensez simplement à l'entropie, cette tendance à la dispersion. La société de masse, avec sa surveillance constante et son injonction à la transparence, bah, ça disperse notre énergie sociale. On s'épuise à exister publiquement.
Ouais, on court partout pour plaire à la masse.
C'est ça. Et la vestale du vide, en cultivant l'opacité, elle ferme ce circuit. Elle crée un îlot de basse entropie. L'énergie n'est plus gaspillée vers l'extérieur.
elle est conservée et réinvestie uniquement pour réchauffer et solidifier les liens à l'intérieur de la tribu.
Exactement. L'opacité devient un bouclier.
Donc, le refus de la transparence totale, c'est en réalité le ciment de ces nouvelles communautés. C'est ce qui nous mène à la conclusion de ce matériel, l'émergence d'une nouvelle métaphysique incarnée par Esthésia, la déesse métaphorique du lien invisible.
Tout à fait. La force suprême aujourd'hui ne consiste plus à dominer l'autre, mais à l'agréger.
C'est un renversement vertigineux, surtout quand on réalise que le tout premier protocole de cette nouvelle ingénierie exige noir sur blanc la mise à mort de l'ego au profit du groupe.
C'est le prix à payer pour survivre socialement, oui. Il faudrait désormais accepter de se dissoudre dans une tribu fluide.
Ce qui laisse une question cruciale en suspens pour ceux qui nous écoutent. Si l'abandon de soi est le prix à payer pour entrer dans l'orbite réconfortante de ces tribus, à quel moment la chaleur de l'appartenance cesse-t-elle d'être un refuge pour devenir le tombeau de notre libre arbitre individuel ? On laisse chacun y réfléchir.